savourer nos différences.
Elle était une fois une jolie princesse qui en avait assez d'être désignée uniquement par sa beauté. Une princesse qui voulait être écoutée et défendre ses droits qui avaient trop longtemps été bafoués. Alors un jour, cette princesse quitta sa tour, appela à elle ses sœurs et ses adelphes et s'engagea pour que plus jamais les femmes ne soient méprisées. Bienvenue sur Radio G dans Elle était une fois, votre émission féministe qui met en lumière les femmes d'hier et d'aujourd'hui. Vous nous suivez sur le 101.5 FM ou sur radio-g.fr où vous pouvez d'ailleurs nous écrire. Moi c'est Astrid et pour m'accompagner durant cette prochaine heure, je peux compter sur la fine équipe, mes acolytes et mes copines, Anna et Mayalen. Bonjour à vous deux, comment ça va? Bonjour à vous, Anna, salut.
Salut.
Mayalen, salut aussi.
Salut, ça va et toi?
Ça va super, trop bien, vous êtes prêtes pour cette première émission?
Ouais.
Trop trop cool, c'est parfait parce que au sommaire de cette première émission, on vous fait découvrir Papicha, un film féministe qui parle des femmes dans la société algérienne. Vous connaissez Joanne Clark, cette femme badass qui a marqué l'histoire? Non? Eh bien, restez avec nous alors parce que vous allez voir, elle est incroyable. On vous présente aussi le roman graphique « Les femmes ne meurent pas par hasard » présenté tout droit depuis l'Italie où Léonie vient d'arriver pour son Erasmus. Alors ne vous étonnez pas si elle glisse quelques mots d'italien dans sa chronique. Vous en avez forcément entendu parler, c'est la grande polémique des puristes de la langue française, l'écriture inclusive. Mais est-ce que c'est vraiment facile à utiliser ou c'est la méga galère? On en discute tout à l'heure. Mais surtout, dans chaque émission, nous recevons une angevine ou un collectif engagé pour le féminisme et les luttes intersectionnelles ou juste une femme trop stylée qui mérite d'être mise en avant. Et aujourd'hui, je suis vraiment trop heureuse, nous recevons la photographe Saadia Hamdine, aussi connue sous le pseudo de Saamage sur Instagram. Salut Saadia, comment ça va?
Bien et toi?
Oui?
Quelle intro incroyable.
Merci. Donc nous découvrirons ton parcours et tes projets dans environ un quart d'heure, alors restez avec nous. Vous êtes sur Radio G 101.5 FM. Merci de nous avoir choisis pour lutter contre le patriarcat. Ça fait un moment maintenant que je vois tourner sur les réseaux sociaux une rumeur qui dirait que des scientifiques se sont enfin penchés sur la question de l'endométriose afin d'étudier cette maladie qui touche quand même une personne menstruée sur 10. Mais au lieu de s'interroger sur les raisons d'être de cette maladie qui provoque des douleurs chroniques handicapantes ou sur les moyens de la soigner, ces scientifiques ont plutôt préféré utiliser le budget alloué pour se demander si les personnes atteintes d'endométriose étaient plus attirantes que les personnes non atteintes. Et oui, oui, vous avez bien entendu. C'est tellement absurde qu'au début, je pensais à une fake news, mais non. Et après quelques recherches, j'ai vu que cette étude, elle existe bel et bien, même si elle a rapidement été abandonnée au vu de l'accueil qu'elle a reçu dans la communauté scientifique et par le grand public. Alors, je voulais savoir si vous aussi, autour du plateau, vous aviez vu déjà passer cette info et globalement, ce que vous en pensez, quoi. Mayalen, qu'est-ce que t'en penses?
Alors, c'est une nouvelle pour moi, j'avais pas du tout entendu parler de ça.
Ok.
Je trouve ça vraiment mais affreux à chaque fois, comme quoi les femmes, c'est toujours par rapport à leurs critères de beauté.
On est d'accord.
Et pas du tout par rapport à ce qu'elles souffrent. L'endométriose, c'est horrible. Et genre, juste là, ils pensent à leur beauté, si elles sont belles ou moches, comme d'habitude, quoi.
On souffle.
Voilà.
Et d'ailleurs, de ce que j'ai vu, l'étude était dirigée par deux hommes et deux femmes, quand même. Et j'arrive vraiment pas à comprendre comment elles ont pu se dire que c'était une bonne idée de faire cette étude. Donc, est-ce que toi, qu'est-ce que t'en penses, Saadia, de ce fait que littéralement la communauté scientifique et médicale s'en tamponne de la santé des femmes, en fait, et des personnes menstruées?
Je trouve que, bon, évidemment, c'est ridicule, mais surtout, ça m'étonne pas du tout, malheureusement.
Ah ouais?
Non. Et puis même vis-à-vis de la pilule, tu vois, ils ont découvert la pilule pour hommes qui n'a pas d'effet secondaire à alors que nous, on se tape les vieilles pilules qui te causent de tout ce que tu veux en termes même de fatigue émotionnellement et tout ça. Et en fait, je trouve que la priorité, elle est toujours au mauvais endroit.
Ouais, je suis complètement d'accord. Et toi, Anna, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'il y a un autre exemple en plus au lieu de cette étude et de l'endométrie, enfin de la pilule, comme la vient de le dire Saadia. Il y a aussi, il a fallu qu'on attende 2023 pour que la communauté scientifique utilise du vrai sang pour tester les protections périodiques. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Anna, de tout ça, tout ce qu'on vient de dire?
Par rapport aux serviettes hygiéniques, ouais, je savais que jusqu'à bah, du coup 2023, c'était pas du sang utilisé, et je trouve ça tellement absurde, pardon, parce que c'est quand même des expériences scientifiques, donc qui sont prouvées par l'État, etc. Et c'est tellement, ça montre le non sérieux lorsqu'on parle de femmes. Et moi, ça me sidère de voir que on est pris pour des moins que rien. Même au niveau de la science, alors qu'on nous parle d'égalité homme-femme, etc., tout ce que vous voulez, on voit que en 2023 seulement, on commence à utiliser du vrai sang pour l'exemple des serviettes hygiéniques. Mais ça, c'est un exemple tout bête. Je veux dire, maintenant, encore aujourd'hui, c'est que ce soit dans la science ou dans la vie de tous les jours, on n'est pas pris au sérieux et c'est tellement triste à dire.
Carrément, je suis mais totalement d'accord. Nous soufflâmes, comme on dit. Et franchement, bon, on va pas s'apesantir plus que ça sur ce sujet qui pourrait pourtant faire un débat de des heures, clairement. Je vais rester tournée vers toi, Anna, parce que maintenant qu'on a bien verbalisé le non-respect que la société patriarcale a envers littéralement la santé des femmes, hein, et de nos adelphes menstruées, je reste tournée vers toi parce que tu voulais nous parler de nouvelles œuvres engagées que tu avais découvertes. Et je dois dire que je suis assez curieuse de découvrir les trois pépites que tu nous as déniché, notamment l'artiste musical que tu as choisi aujourd'hui. Alors, on t'écoute, Anna, dis-nous tout.
Salut Astrid et salut à toutes les auditrices qui nous écoutent en ce moment même sur Radio G. Au programme aujourd'hui, je vous parle du combat des femmes algériennes contre leur patriarcat, du R&B sous sa forme indienne et pourquoi faut-il fuir les couples hétéros. J'espère que ça vous parle, c'est tout de suite sur le point culture d'Allaiter une fois. Papicha, en algérien, ça signifie « fille coquette et extravertie ». Papicha, c'est aussi un film sorti en 2019 dans lequel on suit l'histoire de Nejma, une jeune fille rêvant de mode et de liberté. Ici, on oublie les neuroses, les rires et les sorties en ville à tout va. Même si les premières minutes du film laissent penser à une vie festive et émancipée, c'est bien tout le contraire pour la jeune étudiante. Et c'est le cas pour chacune des femmes en Algérie, représentées dans ce film par la talentueuse actrice Lina Koudri. Décidée à ne pas se soumettre face aux extrémistes islamistes qui réprimandent la place de la femme dans son pays, on suit durant 1h45 Nejma se battant pour sa liberté, ses droits, sa vie. Ce qui est impressionnant avec ce drame, c'est la façon dont on l'isole petit à petit pour qui elle souhaite être et pour ses revendications. Plus qu'un film, ce long métrage représente une image de l'Algérie cachée de tous, qui continue aujourd'hui d'être un problème majeur pour les femmes du peuple. Malgré la lutte qu'elles opèrent pour acquérir leurs droits, les Algériennes font face à un arrière-plan de conservatisme violent, et ce depuis plus de 50 ans. Vues comme symbole de liberté, les femmes sont réprimandées, voire éliminées, notamment durant la décennie noire dans les années 90. On assassinait ces femmes pour les démembrer, on les éventrait encore vivantes ou bien on les violait. Je m'arrête là pour celles qui sont en train de manger, mais l'impact était énorme et pourtant invisible encore maintenant dans le monde. Aujourd'hui, le combat continue sans relâche et leurs opposants font de même. Malgré une lente émancipation, la régression des droits de la femme est entraînée par les islamistes et par un patriarcat fermant les yeux sur la cause. Papicha dénonce ces injustices, ces brutalités et ces crimes que cache l'Algérie. Avec sa cote de popularité auprès du Festival de Cannes, ce film mérite son succès. Pour toutes les femmes révoltées, pour tous les curieux de ce qui se passe autour de nous, mais surtout pour faire exploser la vérité. On applaudit la superbe réalisatrice Mounia Medour, mais aussi Lina Koudri, à qui revient le César du meilleur espoir féminin. Vous pouvez retrouver le film sur Apple TV, Amazon Vidéo ou bien encore Canal VOD. On continue notre tour du monde en traversant l'Inde pour se loger dans la musique carnatique. La musique carnatique, pour tous les incultes musicaux comme vous et moi, c'est la musique traditionnelle indienne. À celle-ci, ajoutez un peu de R&B et un zeste de soul, vous obtiendrez Gayatri Krishnan. Cet artiste, originaire de Los Angeles, retranscrit sa culture indienne à travers la modernité, mais aussi à travers une voix mélodique et marquante.
Personnellement, je l'ai connu récemment grâce à son passage sur la chaîne géniale qui est Colors, envers qui je fais de la pub car c'est une chaîne de jeunes talents qui émergent, mais ce sont toujours des gros bangers. Sur Colors donc, Gayatri a performé son nouveau single Made It aux mélodies délicieusement hypnotiques que je vous invite fortement à aller streamer. Pourtant, elle s'est fait connaître dès 2020 avec son premier EP Create to Express qui a tout de même amassé 6 millions de streams. Lorsqu'elle performe sur scène, Gayatri recense ses origines. Les touches musicales carnatiques sont imagées par le Bharatanatyam, qui représente avec son si joli nom un style de danse indienne datant du 2e siècle de notre ère. Aujourd'hui, la carrière de la jeune interprète ne fait que gonfler davantage, traversant les quatre coins du monde avec ses concerts et interviews. En espérant que son chant saura vous envoûter, tout comme il m'a envoûté moi, on écoute sa musique qui m'a fait découvrir un talent autant underground que vibrant dans quelques instants. Paf ! De retour en France, douce France, au sein d'un appartement parisien dans lequel vit un homme et une femme. Tous deux vivent heureux et en couple, pour le meilleur et pour le pire. Enfin, surtout pour le pire. C'est ce que réprime Julie, connue sous le nom de Julie underscore Enmore 5 sur TikTok, qui, je vous le jure, m'a fait ouvrir les yeux sur un problème bien présent dans notre société et ce depuis toujours. Pourquoi le couple hétéro, c'est de la merde ? Et c'est pas moi qui le dis. En effet, la TikTokeuse explore différents aspects autour de cette thématique compliquée et bordélique qu'est le couple hétéro, notamment avec l'exemple du 50-50 inexistant, le mythe de l'amour romantique hétéro ou bien de la dissonance cognitive. Dans ses vidéos éducatives, et je pense sincèrement que plus de personnes devraient les regarder, elle justifie que l'amour hétéro est un idéal que l'on nous endoctrine depuis l'enfance, à travers la littérature, la musique ou bien encore le cinéma. Le prince charmant, ça vous parle ? Sauf qu'en réalité, ces relations hétérosexuelles sont déséquilibrées, et la femme se retrouvera toujours exploitée au détriment de son partenaire. Je m'explique. Les hommes profitent d'une société patriarcale, où ils exploitent notre travail, que ce soit domestique mais aussi émotionnel et pédagogique. On leur apprend à prendre soin des autres, à être de bons communicants et empathiques. Comme le dit si bien Julie, être avec un homme, c'est purement du bénévolat. Mais en réalité, c'est dur d'ouvrir les yeux sur un soft power qui maintient les femmes dans leurs relations hétérosexuelles, parce que maintenant que celles-ci sont indépendantes et n'ont plus besoin financièrement parlant des hommes, bah, faut bien trouver un moyen de les faire rester. On nous fait croire que le couple est un aboutissement, un lieu d'épanouissement, nous plongeant dans une dissonance cognitive dès lors que l'on entre dans un stade de couple. Cet état, extrêmement inconfortable, va être réduit par la rationalité, avec des idéologies du genre « ma croyance spirituelle slash religieuse m'oblige à me vouer à cette personne, mais je l'aime, c'est plus fort que tout, c'est un mec, c'est normal ». Non, ce n'est pas normal et il est encore temps de fuir. En tant que femme, on mérite d'être valorisée pour la personne que l'on est et pas pour celle qu'on doit être auprès des autres. C'est important de penser à soi avant autrui, vraiment. Je m'attarde pas plus longtemps sur le sujet, mais je vous invite fortement à aller checker le compte TikTok Julie underscore Enmore 5. Tout ce que je peux vous dire, c'est finissez seul avec des chats. Les frustrés diront de vous que vous êtes une vieille peau et moi je dirais que vous avez réussi votre vie. Sahel.culture sur Elle était une fois touche à sa fin. J'espère que pour une première édition, ça vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour de nouvelles recommandations culturelles sur Radio G.
Merci beaucoup Anna pour cette belle recommandation et pour cette très très belle première chronique. Ça va, tu te sens bien ?
Oui, franchement.
Trop bien. C'était super. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à la suite. Est-ce que vous vous souvenez de Joanne Clark dont je vous parlais tout à l'heure ? Laissez-moi vous raconter son histoire. Elle était une fois une femme incroyable qui a littéralement aidé à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Et ouais, rien que ça. Une femme que pourtant très peu connaissent et qui est surtout oubliée au profit de son collègue masculin, Alan Turing. Ce nom ne vous est certainement pas inconnu, notamment si vous avez vu The Imitation Game, son biopic incroyable avec Benedict Cumberbatch. Mais est-ce que vous connaissez Joanne Clark ? Non ? Eh bien c'est dommage, parce que Joanne Clark est une cryptologue britannique qui a participé au décryptage de la machine Enigma. Mais revenons un peu en arrière. Joanne Clark est née à Londres en 1917 à la fin de la Première Guerre mondiale. Benjamine d'une famille de 6 enfants et fille d'un révérend, elle étudie dans un lycée pour filles dans le sud de Londres où elle obtient une bourse pour étudier les mathématiques au sein de l'université de Cambridge. Là-bas, elle y obtient d'excellents résultats, mais elle ne peut obtenir un diplôme complet à cause du règlement de l'école. Parce que oui, Joanne est brillante, mais c'est une femme.
Heureusement pour elle, son histoire ne s'arrête pas là, parce qu'elle est recrutée en 1940 par son ancien superviseur académique, Gordon Welshman, pour travailler au bureau anglais responsable de l'interception et du déchiffrage des communications étrangères. Joanne intègre donc la Hutte 8, chargée du décryptage des codes de la marine allemande, où elle est d'ailleurs la seule femme. Et sans surprise, elle fait face à un scepticisme et à un paternalisme de la part de ses collègues masculins, jusqu'à ce qu'elle devienne très rapidement l'une des meilleures dans son domaine. Là-bas, elle y rencontre celui qui deviendra son meilleur ami, Alan Turing, chef de la Hutte 8. Je pourrais vous en dire plus sur lui et sur le génie qu'il était, mais ici, on met en lumière les femmes de l'ombre, alors si vous avez des questions sur Alan Turing, bah vous chercherez sur Google. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il deviendra si proche de Joanne durant le printemps 1941 qu'ils se fiançeront. Sauf que, spoiler alerte, on est loin de l'idylle parfaite. En effet, les fiançailles ont été motivées par devoir social, puisque les parents de Joanne insistaient pour qu'elle se marie. Enfin voyons, une femme brillante travaillant pour l'un des plus grands bureaux de décryptage du pays, il lui faut forcément un mari. Malheureusement pour Monsieur et Madame Clark, les fiançailles seront rompues dès l'été suivant, après que Alan Turing ait avoué à Joanne son homosexualité. Joanne devient alors son plus grand soutien et lui promet de garder le secret parce que, rappelons-le, à cette époque, l'homosexualité était illégale au Royaume-Uni. Elle devient en 1944 la responsable adjointe de la Hutte 8 aux côtés de Turing avant d'être faite membre de l'Ordre de l'Empire britannique en 1947 pour la remercier de sa participation à l'effort de guerre. Toutefois, une ombre subsiste dans son travail. Son travail pendant la guerre étant classé secret défense, elle ainsi que ses collègues masculins n'obtiendront aucune reconnaissance du grand public avant 1970. Et là encore, étant une femme, son travail est moins mis en lumière que celui de ses confrères et de son ami Alan Turing. Ainsi, encore aujourd'hui, on ignore l'étendue exacte de son travail. Et parce que sans Joanne Clark, la Hutte 8 n'aurait pas pu être aussi efficace, je voulais vous parler d'elle et la mettre le temps de quelques minutes dans la lumière qu'elle mérite. Et c'est déjà l'heure de la pause musicale et pour ça, je me tourne vers toi, Anna.
Je vous propose donc d'écouter Made It de Gayatri Krishnan, un morceau que j'aime autant pour sa modernité à travers le R&B que par sa traditionnalité indienne. Je vous propose du miel, de la douceur, de l'exotisme et une vague de fraîcheur pour 2 minutes 58. On se retrouve dans un instant sur Radio G 101.5 oui, FM ou sur radio-g.fr. Bonne écoute.
Listen to that, fuck it. This saved my life, that's not a lie. Returning back to where I started. I already made it, yeah. I already made it. I already made it, yeah. I already made it. Unsolicited advice. Keep that to yourself. Here to stay for the ride. Take me downhill, uphill. I'm in this for the long run. This ain't not no sprint, it's a marathon. I'm lacking, there's no option. No distractions, I've been tapped in. Can't deny it. Sagamapani sani, sagani sabani mapagama, sagamapa, sagamapani, sagamapani sagamaga sani pa, pamaga sani pani. Ni ni ni, sabani sa sa sa, sabani mapagama, pani sa sa sa, kasani pamaga sani pamaga.
ba, sagama bani, sagama bani, sagama ga zani ba, ba ga zani bani, ga zani ba ba ga, ga 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 saga, sagama ba, sagama bani, sagama bani sa, ga zani zani ba, zani bani ba ma, ba ma ga ma ga zani saga, sagama ga ma bani sa 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 ga ga ga.
Avec nous sur le 100.5 FM dans Elle était une fois et vous nous écrivez sur le chat de radio-g.fr. Toujours avec mes copines, Anna, ça va toujours ?
Ça va toujours.
Trop bien. Toujours avec Mayalène. Mayalène, ça va toujours ?
Ça va nickel.
Trop trop bien. Et elle nous fait l'honneur d'être notre première invitée, bien qu'elle soit une habituée des studios de Radio G, c'est Samaj. Ça va toujours ?
Oui, nickel. Et toi ?
Ça va, ça va. Et bien, il est temps alors de passer à l'interview. Bonjour Saadia. Alors on l'a un petit peu dit depuis le début de cette émission, tu es photographe et je vais le dire tout de suite, j'adore ce que tu fais.
Trop mimi.
Vraiment, je connais absolument rien à la photo, à mon plus grand regret, mais je trouve que tes photos sont vraiment magnifiques et vraiment je pèse mes mots.
Trop chou, ça me touche beaucoup.
Et ben c'est avec grand plaisir et c'est vraiment très sincère. Donc on va contextualiser un petit peu tout ça. Ça fait combien de temps que tu fais de la photographie ?
Alors... que je fais de la photographie depuis très longtemps, si c'est de manière non professionnelle la question. Je pense que ça fait plus de... ouais, entre 8 et 10 ans. J'ai commencé jeune avec mes copines. On parle de copines ici, donc...
Ben oui, c'est très bien.
Ah, vous avez des shootings affreux.
Comme tout le monde, je pense.
Je sais pas si ça se fait encore.
Ah, on en fait encore, nous.
Bon, voilà.
Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours passionné, la photographie, ou c'est venu bien plus tard ?
Alors oui, en fait, ça m'a toujours passionné, mais je l'avais pas verbalisé, je m'en étais pas rendu compte particulièrement. J'ai toujours aimé faire de la photo,
ouais.
Mais je me disais, je fais ça comme, je sais pas, comme je ferais de la peinture ou du tricot, et puis je m'arrêterai après, alors qu'en fait, je me suis jamais arrêtée.
Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu rapidement ton parcours, si t'as fait des écoles, ou comment t'as appris la photographie ?
Carrément. Alors moi, je suis arrivée en France et je me suis inscrite aux Beaux-Arts. J'ai fait un lycée. J'ai fait le lycée Renoir.
D'accord.
À Angers. Option art plastique lourde. Donc j'étais quand même centrée art de manière générale.
Ouais.
Mais c'est pas très précis en soi. Et après, j'étais un peu perdue toute ma vie. Je voulais être chanteuse avant.
Ok.
Tu captes. Donc vu que ça marchait pas cette carrière de chanteuse, je me suis dit bah faut que je fasse quelque chose. Après je voulais être dessinatrice. Donc ma tante qui a fait les Beaux-Arts à Angers, ouais, elle m'a dit bah fais les Beaux-Arts parce que c'est assez large, ça te permettra bah de découvrir quoi.
Ok.
Et donc j'ai commencé, j'ai passé le concours, je suis entrée à l'école. Je cherchais aussi un petit peu à m'intéresser à la vie culturelle de la ville, de manière assez générale. Et j'ai travaillé au Festival Premier Plan.
Donc okay.
J'ai découvert en parallèle de la photo et de mon école des Beaux-Arts d'Angers, le cinéma. Ce qui m'a amenée vers là où je suis aujourd'hui, où en fait j'ai fini mes études. J'avais travaillé dans le milieu ciné, dans le milieu télé, un peu partout, et j'avais mon appareil tout le temps. Et en fait, je prenais des photos par-ci, par-là. Puis un jour, un réal qui m'a dit bah, « j'ai trop aimé tes photos, j'aimerais trop en faire l'affiche du film ».
Oh, waouh !
Du coup, je dis bah, « vas-y, si tu veux ». Enfin, moi, j'étais en mode « ouais, trop cool, enfin, tu veux utiliser ma photo, c'est génial et tout ça ». Il me dit bah, « oui, mais par contre, il faut que je te paye ». Je dis « ah ouais, ok, bah, vas-y bah. ». Il me dit « mais non, mais il faut une facture ». J'étais en mode « ah oui, ok, bah vas-y, je vais faire une entreprise au pire ». Et
okay.
Puis voilà. Donc, je monte mon statut. Et après, j'étais en mode bah, « purée, j'ai une entreprise maintenant ». Bon, on va faire des photos du coup. Et en fait, c'est venu un petit peu comme ça, sans vraiment le vouloir.
Ouais, ça s'est fait un peu naturellement.
Exactement,
comme ça.
C'est comme ça que je suis rentrée dans la vie professionnelle.
Ok.
Mais j'ai toujours fait de la photo. Ça a toujours été un plaisir, une passion. Et en fait, j'ai avancé comme ça.
Ok, d'accord, super. Je vois. J'ai vu sur ton compte Instagram, Sahamage, donc S-A-H-A-M-A-G-E, que tu avais un style très coloré et dynamique.
Ouais, j'aime beaucoup.
Est-ce que c'est un style que tu avais dès le début ou tu l'as trouvé plus tard avec l'expérience et le temps?
Je pense que je l'avais en moi. Genre, c'était pas, ça n'existait pas.
Ok.
Mais ça se révélait peut-être pas de cette manière-là. Mais j'ai quand même l'impression d'être la même personne et d'avoir les mêmes pensées qu'il y a 8 ans quand je prenais des photos. Après, ça s'affine.
Ouais. Ça se développe au fur et à mesure.
Une identité qui, oui. Après, ça devient ta patte, donc je pense que tu réfléchis comme ça, quoi.
Ok. Nous sommes aujourd'hui dans Elle était une fois, donc c'est une émission qui vise à mettre les femmes dans la lumière qu'elles méritent. Comment c'est d'être une femme dans le milieu de la photographie? Je ne sais pas si c'est un milieu qui est assez masculin ou assez féminin. Comment ça se passe et comment toi tu le vis?
C'est très intéressant ta question parce que c'est un milieu extrêmement masculin.
Genre, okay.
que des mecs et pas des jeunes.
Ah!
Donc, comment dire qu'on est sur le gratin?
Ouais.
Tu vois, on est vraiment sur le gratin. Genre, j'ai déjà été en Fashion Week, les gars ils t'insultent. En mode, ouais, les petites jeunes là, qui savent rien faire là, t'es là en mode, ok, j'en vis pas Richard sur son tabouret qui est là depuis 5h du mat en espérant prendre la photo qu'il va vendre à la presse. Genre, tu vois, c'est. Après, on fait notre petite place. Il y a des femmes, pas mal de femmes photographes, j'en connais beaucoup et qui sont toutes très talentueuses. Mais c'est un univers d'hommes. Et de manière générale, on te le fait ressentir quand même.
Ouais.
Dans les prestations, surtout sur des prestations avec des grandes marques ou dès que ça devient technique, c'est des grosses équipes d'hommes, c'est des gens qui sont dans le milieu depuis. Ils vont te parler beaucoup de technique, tu sais, un peu pour mettre leurs couilles sur la table en mode tiens, tu sais ce que c'est ça là?
Genre. Super.
Et moi, par exemple, je suis pas du tout comme ça. Genre moi, j'étais autodidacte du coup de la photographie parce que j'ai fait les beaux-arts, mais j'apprenais pas de photo. Moi, la technique, je m'en bats les couilles. Enfin, tu vois, j'étais en mode je fais les photos, je fais comme ça me touche et comme ça me plaît. Et puis la technique, elle est venue après. Faut d'abord avoir une sensibilité. Et j'en vois aujourd'hui des gars, ils vont avoir cet aspect technique. Mais les photos, elles vont pas forcément me toucher ou voilà. Et donc, je pense que ça, c'est féminin.
Ouais.
C'est féminin, le talent.
Ah bah, je n'en doute pas une seconde. J'ai vu également, toujours sur ton compte Instagram, que tu photographiais beaucoup de femmes. Est-ce que c'est un choix de ta part?
Alors, je photographie beaucoup de femmes. J'essaye surtout de photographier des femmes toutes différentes.
Ouais, j'ai vu.
Pas parce que souvent, les photos, surtout quand t'es dans le milieu mode, luxe, un peu image, tout ce qui est tendance, on peut vite aller vers des profils qui sont similaires, qui respectent les standards de beauté, de tout ce que tu veux. Et ça, j'ai toujours fait attention à pas tomber là-dedans nécessairement.
Ouais.
Histoire de représenter un maximum de personnes. Moi-même, étant une personne racisée, je me vois pas prendre que des blancs en photo, par exemple.
Mais t'as complètement raison et c'est ce qui fait aussi la beauté de tes photos parce qu'il y a une très très belle diversité.
Merci.
Donc c'est vraiment magnifique. Mais d'ailleurs, en parlant de prendre des photos et d'être derrière et devant la caméra, ça doit pas toujours être évident de poser devant un appareil photo. Comment toi, en tant que photographe, tu fais pour que ces femmes que tu photographies se sentent à l'aise et en confiance?
Et ben justement, moi je me prends souvent en photo, j'ai souvent fait cet exercice-là.
Ok.
Parce que je trouve ça hyper important. Parce que tu peux pas dire à quelqu'un de faire comme ci, comme ça, alors que tu n'as jamais été à sa place. Tu sais pas ce qu'il ressent, le stress. Moi, par exemple, je suis pas mannequin. Justement, c'est vraiment la position dans laquelle vont être la plupart de mes clients, clientes.
Mm-hmm.
Et donc, pouvoir donner des indications qui sont, tu vois, qui prennent qui prennent en cause, en fait, comment ils peuvent se ressentir au moment du shooting ou voilà. Et je trouve que ça m'a beaucoup aidée, même pour donner des indications. C'est tout bête, hein, mais il y a plein de choses avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise. Je sais pas, il y en a un qui a un complexe sur son nez, quand tu le prends sous tel angle, il n'aime pas. Elle, son sourcil, quand on la prend comme si, il est trop levé. Et j'essaye de faire un maximum attention à ça quand je prends les gens en photo, histoire d'être à l'aise.
Et bien, c'est super. Et puisqu'on en est à des conseils comme ça, qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune femme qui voudrait se lancer dans la photographie mais qui n'ose pas?
En vrai, juste de faire. Mais comme dans tout, je pense, dans la vie. Je pense que quand tu fais au début, on se moque de toi, on se dit « Ah, c'est nul, machin. » faut pas écouter, il faut se mettre en mute et juste faire, faire, faire. Et en fait, un jour, on se réveille, on est là en mode, ah ouais, j'ai fait ça, c'est trop bien. Oh, j'ai fait ça, ça, et on a avancé, en fait. Mm. On n'est pas parti de rien.
Ok, donc c'est expérimenter, quoi.
Ouais, au maximum.
Super.
Ne pas se fermer de porte. C'est... Et essayer de croire en soi, même si c'est pas facile tous les jours.
Ce sont des très beaux conseils. J'ai vu également dans, dans tes projets les plus récents, et à ce stade on va vraiment me prendre pour une stalkeuse, que tu avais réalisé un shooting sur Angers au Café Pollen, qui a ouvert récemment dans la Doutre, pour mettre en scène le concept store Angevin Ma Closette, si je dis pas de bêtises.
Tout à fait.
Et est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur de valoriser comme ça le local à travers des entreprises indépendantes, notamment dirigées par des femmes ici ?
Complètement, et je le fais aussi pour bah, d'autres, la Coloc Boutique, Rue du Mail, là j'en ai pas en tête tout de suite, mais j'en ai vraiment beaucoup. Si, toutes mes copines elles ont des business ouais. vraiment dans le centre-ville, donc un maximum, ouais, j'essaye de travailler avec les gens, leurs produits. Voilà, je trouve que c'est plus intéressant et puis ça crée de l'échange ouais, et surtout carrément. Des liens entre les gens aussi dans la ville. C'est tout bête, mais faire rencontrer des mannequins ou des artistes entre eux, c'est toujours enrichissant, quoi.
Carrément, je suis trop d'accord. Et bah, puisqu'on est sur cette question un petit peu d'engagement et de ce qui nous tient à cœur, je voudrais te demander quelle relation tu entretiens toi avec le féminisme. Est-ce que tu te considères toi-même féministe ?
Oui, bah évidemment. Pas quoi répondre d'autre.
Évidemment. De quelle manière est-ce que tu t'engages ? Si tu t'engages, est-ce que tu réalises des petites actions, grandes ou petites ? Il y a de tout qui te font te conforter en fait dans ton.
Bah oui, bien sûr, tous les jours. Tous les jours, combattre le patriarcat, c'est important. comment ? Bah, de manière, de plein de manières, mais tu vois, de plus en plus, genre la santé mentale.
Ouais.
Essayer de. Moi-même, avec mes propres luttes, tu vois, genre m'écouter moi-même, essayer de pas minimiser mon ressenti par rapport à celui de certaines personnes, par rapport aux hommes, par rapport à mon milieu professionnel, mais aussi dans la vie privée, dans plein de choses. Tu parlais des relations hétérosexuelles tout à l'heure. Tu vois, il y a plein de questionnements sur lesquels il faut réfléchir, je pense.
Et est-ce que tu arrives un peu à concilier... T'arrives à lier cet engagement avec ton travail ou c'est quelque chose que tu distingues parce que ça ne va pas forcément ensemble ?
Non, je trouve que ça va complètement ensemble. Et je pense, tu vois, c'est comme... ça a peut-être rien à voir, mais je trouve qu'on rend négatif les gens qui ont plein de cordes à leur arc, genre qui sont intéressés par plein de choses. En fait, c'est ça qui compose une personne, c'est que t'es toutes ces choses-là entre elles. Donc, on ne devrait pas sectoriser, genre, je sais pas, des passions ou des envies. Il n'y a pas de trucs qui sont réservés à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, il faut vraiment tout faire et genre être entier. Donc, le féminisme, si c'est mon combat, ça ira avec tout ce qui me plaît dans la vie.
C'est très, très beau dit comme ça. Je retourne un petit peu plus sur du côté de la photographie. Ça a l'air d'être un métier qui va vraiment à 100 à l'heure.
Ouais, c'est affreux.
Comment ça s'organise un peu, genre tes journées ? Est-ce que tu arrives à te reposer des
ça
fois ?
Ça ne s'organise pas.
Ça ne s'organise pas, ok.
Non, mais en fait, c'est que tu as beaucoup d'imprévus,
ouais.
De last minute. Je ne comprends pas ce besoin que les gens ont. Genre, on dirait qu'ils vont mourir s'ils n'ont pas leur photo. C'est un truc de ouf. Non, en vrai, j'ai de la chance parce que mon travail plaît et que moi, j'adore faire ce que je fais. Donc, j'ai des clients, j'ai des demandes toujours de plus en plus intéressantes. Donc, c'est bien, je suis challengée. Voilà, mais il faut vraiment... C'est pour ça que je parlais de santé mentale. Moi, apprendre à m'écouter, tu vois, apprendre à prendre des vacances, apprendre à pas culpabiliser parce que là, j'ai terminé un peu plus tôt et alors que je pourrais travailler, mais aussi il faut dormir, tu vois. Enfin,
c'est pas toujours évident.
Non.
Ok. Et tu penses que t'arrives à trouver un équilibre ou...
De plus en plus, j'apprends. Je suis pas parfaite.
Ouais.
J'apprends. Mais franchement, si je compare à il y a 4 ans, oui, il y a un monde. Laisse tomber.
Oui, de toute façon, ça va venir au fur et à mesure. En tout cas, on te le souhaite.
Merci.
J'ai vu de nouveau sur ton compte Instagram, parce que j'ai vraiment passé du temps dessus, que tu avais voyagé dans beaucoup d'endroits, plein oui. de villes de France, plein d'endroits du monde et tout. C'est vraiment trop, trop chouette. Est-ce qu'il y a un pays en particulier qui t'a marqué ou tu as vraiment aimé faire des photos ?
Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'ont marqué.
Si
mais
tu voudrais en choisir qu'un ?
Eh ben, je dirais l'Algérie. Peut-être ça va rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, mais moi je suis algérienne finlandaise.
Okay.
prendre des photos en Algérie, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et du coup, c'était un exercice intéressant. Surtout, c'est des images qu'on ne voit pas.
Ouais.
Parce que du coup, elles n'existent pas. Elles n'ont pas cette possibilité d'exister. Donc voilà, je pense que c'est tout ce qu'on ne montre pas qui est intéressant.
C'est complètement ça. Donc en fait, c'est aussi un aspect un peu engagé, je trouve, de faire des photos dans un lieu qui n'a pas la possibilité de faire des photos en temps normal.
C'est vrai, ouais, tout à fait. Oui, non, ça peut avoir cette dimension-là. Après, vu que moi, c'est chez moi, je me dis, moi, j'ai juste envie de montrer chez moi et de mettre en avant comme je pourrais le faire partout ailleurs. C'est vraiment, tu vois, par exemple, cette année, c'était un de mes combats, essayer d'avoir des contrats en Algérie, un peu partout dans le monde, dans d'autres pays, pas que en France, histoire de pas être enfermée dans ce... de pas fermer mon business justement à d'autres mentalités, à d'autres ouvertures. Voilà.
Et ça te permet aussi en même temps de rencontrer plein de personnes, j'imagine.
Bah oui, c'est trop bien.
Super. Ça a l'air d'être une très très belle activité, très riche aussi. Je voudrais terminer cette petite interview avec une dernière question. Est-ce que pour toi, enfin, tu as conscience ou pas d'être une représentation inspirante pour les jeunes femmes? Parce qu'entre ton parcours, tes projets, ton art, tu montres qu'il est possible pour les femmes de vivre de son art et de sa passion, tout en étant une femme assez badass et engagée. Est-ce que tu as conscience de ça ou vraiment pas du tout?
Non, pas du tout, parce que pour moi, on a toute la possibilité de faire ce que je fais. Je suis pas du tout, je suis pas quelqu'un, quoi. Genre, je pense que c'est important de rappeler ça. Il y a juste un moment où je me suis dit, oh, vas-y, on y va, je me pose pas de questions. Et je pense que c'est vraiment cet exercice-là qui est difficile, qu'on doit se dire. On doit se dire, en fait, ça nous demande un effort supplémentaire de se dire, bon, j'ai l'autorisation, je peux le faire, on y va, on verra.
Ok. Parce que, en tout cas, moi, je te le dis, t'es à mon sens une femme très inspirante pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer durant cette interview. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir pu échanger avec toi. Alors, une nouvelle fois, merci beaucoup, Saadia, pour avoir accepté l'invitation. Et merci surtout de participer à ton échelle à la représentation positive des femmes dont on a vraiment tant besoin.
Trop chou, merci beaucoup, ça me touche.
Et ben c'est avec grand plaisir et c'est de nouveau très sincère. On va à présent marquer une nouvelle pause musicale avec Rome de Solane. Et on se retrouve dans un instant sur Radio G 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bonne écoute!
Je me sens comme un agneau qui dit pardon au loup d'avoir été trop lent à lui offrir son cou, d'avoir pris trop de place, d'avoir trop résisté, d'avoir vu sa robe de rouge se tacher. Cette jungle me doit des mea culpa à l'appel à marcher entre Raotourien. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi portent les rêves des hommes. Je ne veux plus supplier insomnie, sans l'ombre d'une main qui flotte et se pose sur ma cuisse. Cette ville me doit des mea culpa à la chaîne, à marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne qui a élevé Rome. Les putes comme moi. Genoux, mais préfèrent cracher leur venin debout. et je mangerai leur langue si c'est le prix du silence. Je mangerai leur langue si c'est le prix du silence.
All day, every day, therapist, mother, maintenance, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lift to attendance, so that he never lifts a finger.
Vous êtes toujours avec nous dans Elle était une fois sur Radio G 101.5 FM et je suis toujours avec Anna Mayalen et notre invitée Saadia Hamdine, photographe aussi connue sous le nom de Saamage sur Instagram. Comment ça va Saadia maintenant que l'interview est terminée?
Ça va encore mieux.
Ça va encore mieux. En tout cas, c'était de nouveau un grand plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau. Nous partons maintenant du côté de l'Italie où Léonie va nous parler de sa nouvelle lecture. Bonjour Léonie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la première chronique littéraire de Elle était une fois. Ou plutôt devrais-je l'appeler la cronaca letteraria, puisque je suis actuellement en train de vivre ma meilleure vie en Erasmus en Italie. Ce qui fait que, à mon plus grand désespoir, je peux pas être présente sur le plateau de l'émission. Mais on ne se débarrasse pas aussi facilement que ça de moi. Et c'est pas parce que je suis dans un autre pays que ça va m'empêcher de vous partager mes meilleures recommandations de livres féministes. Et on va commencer avec du très lourd. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le fruit du travail de trois femmes. L'avocate Anne Bouillon, la journaliste Charlotte Rothman et la dessinatrice Lison Fernet. Ensemble, elles sont à l'origine du roman graphique intitulé « Les femmes ne meurent pas par hasard » publié en 2023. Aux éditions Steinkiss. Ce récit, c'est le témoignage d'Anne Bouillon, qui a décidé dans une réflexion féministe et militante qu'elle ne voulait plus défendre les hommes. À la place, elle préfère dédier son temps et son énergie aux femmes victimes de violences sexistes et sexuelles qui viennent lui demander de l'aide. Alors on suit plusieurs histoires, toutes tirées de procès réels défendus par l'avocate au cours de sa carrière. Et grâce au dessin poignant de Lison Fernet, on a l'impression de vivre ces procès et de ressentir toute la souffrance et l'impuissance des femmes à qui on a tout arraché, jusqu'à ce qu'il soit parfois trop tard. Ce livre, il n'a pas été facile à lire, parce qu'il aborde des thèmes qui sont violents et il ne s'en cache pas. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'euphémisme pour qualifier les actes. Tout est dit et ça en devient glaçant. Mais au fond, je crois qu'on en a besoin. On a besoin de ces témoignages pour éduquer, pour sensibiliser. Et surtout, pour essayer de faire changer les choses. Parce que c'est vrai, les femmes ne meurent pas par hasard. Elles ne meurent pas non plus par amour. Et elles ne meurent pas par passion. Et c'est grâce au travail de personnes telles qu'Anne Bouillon que petit à petit, on arrive à faire changer les choses. Alors oui, j'ai pas choisi un livre super joyeux comme première recommandation. Mais il m'a tellement chamboulée que j'avais envie de vous le partager. De ses graphismes percutants à son humanité bouleversante, vous pouvez retrouver « Les femmes ne meurent pas par hasard » d'Anne Bouillon, Charlotte Rothman et Lison Fernet en librairie ou en bibliothèque. Et promis, pour ma prochaine chronique, je vais essayer d'avoir un livre un peu plus joyeux. En attendant, n'hésitez pas à me partager votre avis sur ce roman graphique si vous l'avez lu et surtout à me donner vos meilleures recommandations de livres féministes. Quant à moi, je retourne me plonger dans ma bibliothèque pour vous trouver de nouvelles pépites. Et comme on dit en italien, ciao!
Merci Léonie pour cette leçon d'italien et pour cette découverte. L'heure est venue, mesdames, de discuter d'un sujet qui fait tant débat, autant dans la sphère politique que privée ou sur les réseaux sociaux. C'est l'écriture inclusive. Donc ça fait un moment maintenant qu'on en entend parler, certains sont contre, d'autres sont pour, d'autres encore n'ont pas d'avis. Mais avant d'en discuter, qu'est-ce que l'écriture inclusive? Alors l'écriture inclusive s'inscrit dans un concept plus large, le langage inclusif, qui vise à inclure l'ensemble de la population dans le langage et dans les écrits. Concrètement, il y a plusieurs façons de faire. Certaines personnes estiment que simplement reféminiser la langue française est suffisante. D'autres estiment que... Il faut au contraire la neutraliser afin d'inclure tout le monde, notamment les personnes non binaires. Alors déjà, ma première question, est-ce que vous, vous êtes familière de l'écriture inclusive et est-ce que vous l'utilisez dans votre quotidien ? Anna.
Personnellement, je l'utilise pas forcément, mais je suis carrément pour parce que c'est mieux d'inclure tout le monde. Mais c'est sûr que c'est pas un réflexe que j'ai à y penser au quotidien. Mais peut-être ça pourrait être repensé, enfin je veux dire que je puisse l'utiliser. Mais c'est sûr qu'en tout cas, je sais que c'est pas mal critiqué encore dans nos sociétés actuelles. Alors que je trouve que c'est tellement bien progressiste parce que on avance, on inclut tout le monde, que ce soit femme, homme, non binaire. Et ben ça, je sais que c'est une question que la société n'est pas prête à répondre.
Et pourquoi tu l'utilises pas ? Est-ce que c'est parce que c'est compliqué à utiliser, tu sais pas le faire, ou est-ce que juste t'y penses absolument pas?
Je n'y pense absolument pas. Non, parce que vraiment, comme j'ai dit, moi, je suis carrément pour, c'est bien. Mais juste au quotidien, j'utilise soit féminin, soit masculin, mais c'est sûr que je pense pas vraiment à inclure tout le monde.
Ok, ça arrive, c'est pas, y a pas de souci, y a pas de bonne ou de mauvaise réponse de toute façon. Aujourd'hui, on est là pour discuter. Et toi, Magalène, est-ce que tu utilises l'écriture inclusive? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu
l'utilises dans la vie tous les jours? J'utilise vraiment pas, à part le YEL.
Ok.
Mais sinon, comme disait Anna, je pense vraiment pas. Mais je suis carrément pour.
Ouais.
Ça serait beaucoup plus simple de neutraliser tout. Ça serait beaucoup plus simple de tout neutraliser et comme ça on inclut tout le monde au lieu de mettre au masculin directement. Voilà.
Ok. Eh bien, je vais me tourner vers toi, Saadia, pour finir le tour de table. Est-ce que toi, tu utilises l'écriture inclusive dans ton quotidien ou pas vraiment ?
Alors, dans mon quotidien restreint, entre guillemets, non. Genre, pas moi quand j'écris des SMS ou quoi, non. Mais par contre, quand je fais des demandes genre qui vont être vues par plein de gens, par exemple, si je fais des recherches de profils pour des photos, je fais attention à être inclusive. Donc, c'est dans certains cas, je vais l'utiliser. Mais ça pourrait être un réflexe de tous les jours, que je n'ai pas.
Ok. Vraiment. Est-ce que tu trouves que, du coup, puisque tu t'en sers dans certains cas, est-ce que tu trouves que c'est assez facile à utiliser ou au contraire, ça demande une sacrée gymnastique mentale ?
Non, c'est facile.
C'est aucune hésitation, ouais. Car je dirais.
Bah, tous les changements sont inconfortables, mais bon, on va pas faire les ouin-ouin parce qu'on doit rajouter des petits trucs par-ci par-là, c'est rien.
Ok. Et bien, à toi, Magalène, est-ce que tu trouves que c'est compliqué à utiliser ou c'est juste que tu n'y penses pas et. Vas-y.
Non, c'est juste que j'y pense pas, mais c'est pas non plus un gros effort à faire. Enfin, c'est, il y en a, je sais que j'ai entendu ou j'ai déjà lu, comme quoi c'était trop compliqué de tout rechanger, etc. Enfin, la langue française, elle évolue depuis des années, des siècles. Enfin, à un moment donné, c'est juste parce qu'ils n'ont pas envie et ils n'ont pas envie d'inclure tout le monde, c'est tout. Mais, ok, peut-être au début, tu peux faire des erreurs ou quoi que ce soit, mais au final, après, ça devient un mécanisme et puis voilà, c'est pas hyper dur.
Et puis c'est ok de faire des erreurs et de se tromper. Voilà. Anna, tu voudrais rajouter quelque chose ?
Je trouve que c'est quand même drôle parce que... Enfin, drôle, je sais pas si c'est le mot. Mais malgré le fait que ça se médiatise de plus en plus, même les personnes qui sont pour, comme nous par exemple, on n'y pense pas forcément alors que c'est quelque chose qui est hyper important, l'inclusion. Donc que ce soit concernant les gens qui sont pour ou contre, c'est pas assez représenté et on n'y pense pas forcément. Et je pense qu'il y a quelque chose à changer par rapport à ça, du fait qu'il faudrait qu'on mette plus en avant cette écriture inclusive.
Et comment justement on pourrait le faire pour que ça rentre plus facilement dans notre quotidien ?
Je pense que c'est surtout une habitude à prendre, parce que là pour le coup c'est une habitude qu'on n'a pas. Mm-hmm. Et oui, qu'on prenne le temps d'écrire et de se dire « Ah, il faut que je pense à inclure machin, un tel, ça serait pas mal. » Et puis continuer à médiatiser à balles, parce que faut faire remonter tout ça, malgré le fait qu'il y ait encore plein de personnes qui sont contre. Faut battre ces personnes-là.
Et justement, par rapport à ces personnes qui sont contre l'écriture inclusive, souvent il y a deux teams un peu. Il y a la team ouais, c'est trop compliqué, je sais pas comment faire. En gros, qui font pas trop d'efforts. Et la team de blablabla, ça dénature la langue française, ouin ouin quoi. Et donc, pour le deuxième point, moi je voudrais juste faire un petit disclaimer. En fait, juste si vous êtes dans cette team-là, vous ne connaissez pas la langue française. Parce que, spoiler alerte, le français, de base, c'était beaucoup plus inclusif. Et c'est seulement au XVIIe siècle que de gros misogynes ont pété le seum et ont voulu invisibiliser les femmes. Ils ont donc tout changé dans les règles, en inventant des règles, mais vraiment absurdes, genre le masculin l'emporte sur le féminin. Et je sais pas si vous aussi, vous aviez, quand vous avez appris cette règle à l'école, vous étiez outré. Est-ce que toi, Saadia, quand tu as entendu parler de cette règle, comment t'as réagi ?
Bah moi, je connais... Alors, ma langue majeure, ouais, c'est neutre. Donc oui, en fait, quand je suis arrivée, déjà, je savais pas qu'est-ce qui était masculin, féminin, je me plante encore. Donc je suis vraiment en mode, moi, ça me change pas grand-chose dans ce sens-là. Mais surtout que, tu vois, moi, j'ai appris clé, C-L-E-F, maintenant, on écrit E, enfin, on s'en fout, en vrai, ça fait comme changement, au contraire. Et moi, ce que je trouve dingue, par contre, c'est... des fois, je suis sur des métiers et je veux dire le métier au féminin. Je suis en mode, mais comment on dit ça? Du coup, parce que t'es tellement habitué à parler au masculin, tu sais même plus. Si c'est une femme qui fait ce métier, tu sais pas ce qu'elle fait.
Et bien, parce que parfois le nom n'a soit pas été inventé, soit il a été oublié. D'accord. Et effectivement, c'est quelque chose qui est absolument absurde. Tout simplement, peintre. On dit un peintre. Et comment on dit une femme qui peint, une peintre? Comment on dit? Maëlène, t'as une idée?
Ah oui. Bah, ouais, moi j'aurais dit ça. Peintresse. Non, je sais
et
pas.
Ben oui, ouais. Le vrai mot, le vrai terme, c'est peintresse. Et pourtant, joli, personne ne le connaît. Ça en dit très très long sur l'évolution de la langue française. Il est temps de changer ça. Et bien justement, on parle de l'écriture inclusive et tout ça, il y a plein de façons de faire, en réutilisant des vieux mots comme peintresse, ou en faisant des néologismes comme autorice, par exemple, en mélangeant les deux. Est-ce qu'il y a des façons de l'écriture inclusive que vous préférez ou que vous trouvez plus facile? Parce qu'il y a aussi le point médian à l'écrit, il y a plein de choses qui sont en place. Anna, qu'est-ce que tu pourrais plus facilement utiliser, toi qui aurais peut-être envie de l'utiliser un peu plus?
Quand j'entends écriture inclusive, je pense souvent au point médian justement. Mm-hmm. Mais je sais qu'après il y a tous les noms, les adverbes, enfin les, oui plutôt les noms, les adjectifs qui sont neutres. Mm-hmm. Et je trouve que c'est bien parce que c'est ni masculin, c'est ni féminin et comme ça la plupart sont ok avec ça, on est tous d'accord. Mais c'est sûr qu'il faut remettre à égal autant le masculin que le féminin parce que comme vous disiez, bah en fait on connaît pas forcément certains métiers féminins. On dit toujours au masculin et je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est des métiers, même si ça reste le même métier, c'est des métiers pour les femmes qui sont moins mis en valeur du coup. Et c'est pas fou du tout quoi.
Donc tu penses principalement au point médian à l'écrit et au mot épicène, c'est donc le terme pour des mots un peu neutres. Épicène par exemple, au lieu de dire belle et beau, on peut dire magnifique. Ça c'est épicène et ça va pour tous les genres et c'est super. Toi Maïalène, qu'est-ce que tu pourrais utiliser si tu voulais utiliser l'écriture inclusive et qui serait plus facile d'être utilisé dans ton quotidien?
Moi je suis d'accord avec Anna, je pense que le point médian c'est plus simple.
Mais ça c'est uniquement à l'écrit?
Oui, à l'écrit. Et sinon, en vrai, je sais pas, peut-être le mettre, comme t'as dit, le deuxième avec le néo...
Le néologisme?
Oui, c'est ça.
Donc, par exemple, auditorice?
Oui, voilà.
Ok, un mélange d'auditeur et d'auditrice. C'est effectivement ce que j'utilise aussi personnellement, parce que je trouve que c'est assez... Enfin, c'est plus simple, ça vient un peu plus naturellement de faire un petit mix des deux, plutôt que pouvoir utiliser d'autres choses. Bien évidemment, il y a encore... un million de possibilités pour neutraliser la langue française ou la reféminiser, pour inclure un peu plus de monde. Donc n'hésitez pas à vous renseigner vous-même sur internet, dans des livres, des dictionnaires qui sont spécialement dédiés là-dessus. Vous trouverez plein de choses super intéressantes. Donc merci beaucoup à vous trois pour cet échange. C'était super chouette de pouvoir discuter avec vous d'un sujet qui est, à mon sens, extrêmement important et qui, pour le coup, s'inscrit vraiment dans l'actualité. Et je tiens au passage à rassurer tous les Frédéric qui s'inquiéteraient pour la langue de Victor Hugo. Pas d'inquiétude, même en rendant le français inclusif, on ne le détruit pas, bien au contraire, on l'embellit. Et bien voilà, merci beaucoup à vous trois, merci à vous aussi, auditeurices, du coup, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans 2 semaines avec 2 nouveaux sujets. Et si je peux vous teaser, on parlera dans le prochain débat de mansplaining. Donc suivez bien toutes nos actualités. C'était Elle était une fois, votre émission féministe qui n'a pas peur de dire la vérité. Émission sur le 101.5 FM sur Radio G. On vous en a parlé durant cette heure du film, de Papicha, de la réalisatrice Moudia Medour. Nous avons eu une initiation à l'italien dans le point littérature présenté par Léonie, qui nous a surtout présenté le bouleversant roman graphique « Les femmes ne meurent pas par hasard » d'Anne Bouillon, Charlotte Rothman et de Lison Fernet. Et nous avons débattu enfin sur l'écriture inclusive. Mais surtout, nous avons eu la chance de discuter avec la photographe Saadia Hamdine du féminisme dans le milieu de la photo. Alors merci encore Saadia, ça va, t'as passé un bon moment avec nous ?
Ouais, j'adore. Merci beaucoup de m'avoir invitée.
Eh bien, merci à toi, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau. On vous souhaite une très belle journée sur le 101.5 FM. On revient dans 2 semaines à la même heure. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram, EEUF-RadioG. Et on va vous souhaiter une très belle journée avec Entre les Pages ce soir à 17h. Mais avant ça, merci à l'équipe d'aujourd'hui. Merci Anna, merci Mayalène et merci Léonie. Et d'ailleurs, on va finir cette émission avec une dernière musique présentée par Mayalène.
Je vous propose donc pour terminer cette émission d'écouter Il m'aurait tout sonné de Théodora, une artiste qui est en train de tout déchirer cette année. Elle se place 2e dans le top des artistes féminines en France, entre Aya Nakamura et Céline Dion, rien que ça. J'ai choisi cette chanson parce que ça fait partie des des uniques chansons où je me sens vraiment comme si c'était moi qui la chantais, ou comme si c'était moi qui avait choisi les paroles, enfin bref, qui ressentait tout. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur Radio G, 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bisous.
G 101.5 FM.
Walking in the midnight sun.